Il ne s'agit pas d'une interview ordinaire. Et nous vous demandons simplement l'autorisation de circuler dans vos usines avec nos appareils de prise de vue et nos microphones.
L'île Seguin, on a rasé et après.
Ben vous voyez là où il y a la boule en vert, là, c'est tout au bout de l'île Seguin, c'était la centrale électrique. Parce que Louis Renault voulait son indépendance, il avait fait une centrale électrique. Et là, vous avez maintenant là, ce bâtiment-là, c'était pour une part le département 37, où on fabriquait les outils de presse. Et puis à partir de là, jusqu'au pont là-bas.
L'immense usine Renault de l'île Seguin n'aura duré que le temps moyen d'une vie d'ouvrier à l'époque, 60 ans et un peu plus. Et depuis un quart de siècle qu'elle a fermé, 12 ans qu'elle a été rasée, il n'est sorti de terre qu'un bâtiment. Sur le reste de l'île, hors la scène musicale, les projets qui sont prévus demeurent aléatoires. Le temps de la ville est plus long que celui des mandats politiques. C'est une remarque de Jean-Pierre Fourcade, un des quatre maires qui se sont succédés à Boulogne depuis 1992. Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy ont tenté d'y intervenir chacun avec leur idée. C'est le riche conseil départemental des Hauts-de-Seine qui a finalement porté le projet de la scène musicale. On a un peu l'impression d'une certaine cacophonie. Il y a la question de la durée, mais il y a aussi celle de l'échelle. Chaque pouvoir politique résonne à l'intérieur de son espace propre. Ainsi, pour le conseil départemental, la scène musicale serait la figure de proue d'une vallée de la scène culturelle. Mais enfin, une vallée des Hauts-de-Seine d'abord. Céramique de Sèvres, Château de Sceaux, Jardin, Albert Kahn, etc. Le sort de l'île Seguin a été mis sur le tapis avant que le projet Grand Paris ne soit lancé par l'État. Il aurait pu en être un pôle. On sait maintenant que le fameux métro Express 108, circulant jour et nuit, ouvrira une de ses stations à proximité immédiate. Mais en fait, de pôle, il y aura, selon le langage inimitable des dossiers de presse, un festival de pôles. On peut craindre que les investisseurs qui, après le retrait de François Pinault, ont jeté leur dévolu sur l'île Seguin poursuivront chacun leurs intérêts propres dans la parcelle qu'ils auront acquise.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Philippe Subra, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de l'autre bout de la métropole, l'Institut de géopolitique qui est SI à
Saint-Denis.
Saint-Denis, Paris 8. Boulogne et Saint-Denis sont deux villes de dimension démographique comparable, mais assez différentes.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est une véritable paillasse, hein, cette île Seguin, où se produisent des expérimentations et des réactions en tous sens depuis un quart de siècle.
Vous avez rappelé la durée de vie de l'usine, à peu près 60 ans. Depuis que la dernière voiture est sortie des chaînes et que l'usine a été abattue, en 25 ans, pas moins de 5 projets d'aménagement, c'est-à-dire un tous les 5 ans, c'est une mortalité qui est assez remarquable et qui montre que on a là probablement l'opération urbaine, la grande opération urbaine en Île-de-France la plus compliquée, la plus chaotique, avec le plus de péripéties et vraiment c'est un fait qui questionne.
C'est plus simple de faire Paris-Rive-Gauche, de l'autre côté de la Seine.
Ça a été finalement plus simple, alors que Paris-Rive-Gauche partait avec un certain nombre de handicaps, notamment le fait d'être construit sur une dalle, ce qui renchérissait l'équilibre du projet. Et Boulogne, apparemment, était beaucoup plus simple, mais en fait, c'est révélé, on pourrait dire, un vrai panier de crabes.
Alors, on peut remonter un peu en amont. Vous avez publié naguère un dictionnaire de la banlieue, et puis, plus récemment, Charmant Collin, un livre sur le Grand Paris, où vous insistez sur le rôle de l'automobile dans l'agglomération parisienne. Mais parlons pas de circulation, parlons de fabrication. L'industrie automobile, elle se répartit comment dans la région parisienne ?
Elle se répartit de moins en moins. Elle a été un des principaux secteurs de cette très grande région industrielle qu'a été l'Île-de-France, avec des usines dans Paris, déjà, assez longtemps. Rappelez-vous, Citroën, Quai de Javel, Panhard dans le 13e, et puis beaucoup dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne, à Levallois, à Gennevilliers, avec Chausson, par exemple. Donc ça a été une très grande histoire industrielle, qui est en train de se tourner avec la fermeture de la dernière usine dans la couronne proche, qui est celle d'Aulnay, PSA Aulnay.
Sur Renault, Seguin, il y a quand même un effet de loupe grossissante.
Renault, c'est pas n'importe quelle entreprise. C'est une entreprise qui joue dans l'histoire et dans les représentations de la société française sur l'industrie et sur, dans l'histoire sociale française, un rôle très très particulier. C'est une très grande entreprise, c'est une entreprise qui a été nationalisée, donc qui a été perçue à partir de la libération comme une sorte de bien national, de bien commun. Ça a été ce que Frémontier a appelé la forteresse ouvrière, c'est-à-dire une des principales places fortes du syndicalisme et notamment de la CGT.
Donc on a tous en tête des images des leaders du Parti communiste ou de la CGT, mais aussi de l'extrême gauche,
oui, Sartre,
devant les portes de
Sartre
Renault.
Sartre en 71 devant les portes. La mort de Pierre Auvernet, un militant d'extrême gauche tué par un vigile. Et puis l'expression attribuée à Sartre, mais qui apparemment n'est pas tout à fait exacte, il ne faut pas désespérer Billancourt. C'est dire en fait à quel point Renaud Billancourt a été l'expression, l'incarnation de ce qui a été la classe ouvrière française et qui n'existe plus.
Une des justifications de la fermeture qui va donc intervenir en 1992, c'est le fonctionnement par étage de l'usine qui est très haute en effet, et les voitures à mesure qu'elles sont composées, montées, peintes, vont d'un étage à l'autre.
Oui, c'est tout à fait contraire au principe de la rationalité de la production actuelle.
Vous parlez comme monsieur Auroi de Renault.
Je ne suis pas sûr qu'il existe beaucoup d'usines dans le monde de ce type où, ne dispensant pas de grandes surfaces à plat, il faut bien trouver la dimension ailleurs, et la dimension, c'est en altitude. Plus les années passent à fabriquer des voitures dans l'île, plus on s'aperçoit que le processus est compliqué, qu'il n'est plus très économique par rapport à ce qu'on peut faire dans une usine moderne.
L'île Seguin était tout sauf vétuste, puisque si l'extérieur avait été un peu laissé à l'abandon, on avait oublié de faire les ravalements, l'intérieur a été complètement modernisé en 1984 pour accueillir un nouveau véhicule, l'Express. L'argument industriel est faux, c'est un argument politique qui a prévalu dans la fermeture de l'île Seguin.
Il y a beaucoup de cadres qui avaient l'air un petit peu trop heureux, c'était un peu indécent. Voilà. Directeur de l'usine, bon. Tout juste, on n'a pas fait la fête, on s'est en rond autour de la voiture, quoi. C'est pas...
Quand on leur donne ça, un petit truc, on vous dit hommage à Billancourt. Et après, quand vous y allez, on vous dit cadeau. Cadeau, un t-shirt. Cadeau, une petite image de Billancourt. Cadeau, une cassette. Cadeau, un pins. C'est se moquer. C'est même pas se moquer, je crois que c'est pire que ça. C'est ne pas avoir de respect pour l'ouvrier qui a travaillé là-dessus. C'est ça qui est grave. Et ça, je trouve ça... Ça fait mal.
Témoignage de quelques-uns des 1000 ouvriers qui restaient en 1992, recueillis dans un très bon documentaire dans lequel nous allons puiser au long de cette émission, Frédéric Biabondi, l'île Seguin de Renault à Pinault. Désindustrialisation.
Oui, c'est un mouvement massif en Île-de-France. En 20 ans, entre 1990 et 2010, la moitié des emplois industriels ont disparu. En partie sous l'effet de délocalisation en province ou à l'étranger, et puis le recul général de l'industrie française.
Loupe grossissante sur l'île Seguin, mais il n'y a pas que l'île Seguin, il y a aussi un autre terrain, de l'autre côté de la Seine, non, qui va devenir le trapèze.
Oui, alors c'est même un terrain qui est en superficie plus important, trois fois plus grand que l'île Seguin, mais qui va pas cristalliser en fait autant de représentations et de conflits que l'aménagement de l'île. Alors ça s'explique parce que l'île justement est une île, qu'il y en a peu à Paris, à part l'île de la Cité et l'île Saint-Louis, qu'elle est située à l'ouest, dans la partie de l'agglomération la plus valorisée, donc c'est un endroit qui est exceptionnel en termes de potentiel. Avec une visibilité énorme.
On voit bien que vous ne fréquentez pas les restaurants de l'île de la Jatte. Une île. Jean-Louis Choplin, c'est le programmateur de la scène musicale qui accueille aujourd'hui le sommet Finance et Climat, dit que l'emblème de son projet, c'est cette chanson que vous connaissez de Jacques Brel.
Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur. Et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan longueur d'une sirène à chaque vague. Oh, viens, viens mon amour. Là-bas ne seraient point ces fous qui nous disent d'être sages ou que 20 ans est le bel âge. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer une île.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Une île, l'île Seguin, qui reçoit le sommet climatique ce mardi. 25 ans, est-ce l'âge enfin de revivre, Philippe Subra est notre invité. Alors vous vous intéressez beaucoup aux questions politiques et vous dites que c'est déterminant, bien évidemment, dans la vie et l'aménagement de l'agglomération parisienne. L'État, ça l'intéresse, l'île Seguin, à partir de 1992 ou même avant?
Ça l'intéresse en 88-89, quand Michel Rocard est Premier ministre. Il y a une volonté de l'État de mettre la main sur le destin de ce territoire, justement pour les raisons que j'indiquais de potentiel. Et donc il y a un premier projet qui prévoit la construction d'une cité scientifique internationale, mais qui est tout de suite bloqué par l'opposition des élus, ceux des Hauts-de-Seine, ceux de la ville, ceux de la région. D'autant que, dans le même temps, Rocard essaye de garder la main sur la révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région, et que ça conduit à un conflit frontal.
Haute-Seine, le Conseil Général, riche Conseil Général.
Riche, très riche, le plus riche avec Paris.
Et riche de personnalité.
Riche de personnalité.
C'est qui, alors, le président à l'époque?
Alors, à l'époque, c'est Pasqua. Qu'il est redevenu en débarquant celui qui est maire à l'époque de Boulogne, Paul Graziani. Donc les relations entre les deux sont absolument exécrables. Et Pasqua, en 93, devient ministre de l'aménagement du territoire et donc décide le retrait de l'État, qui par la suite ne va plus jouer qu'un rôle assez mineur dans le projet.
Alors la ville de Boulogne-Billancourt, je vous parlais de Saint-Denis, votre ville, il y a à peu près le même nombre d'habitants. La conjoncture politique n'est pas la même et ce ne sont pas les mêmes, parce que c'est une ville résidentielle, Boulogne-Billancourt.
C'est une ville résidentielle, c'est un peu comme on l'a dit de Neuilly ou de Levallois, un 21e arrondissement de Paris. C'est-à-dire même profil sociologique, même densité. C'est une ville où il n'y a pas de place. 19 000 habitants au kilomètre carré, c'est presque le niveau de Paris, 21 000. Et donc,
remettre... C'est une aubaine.
C'est une aubaine extraordinaire. C'est à la fois un premier problème, parce que c'est le départ des ressources financières assurées par la présence de Renault, taxes professionnelles, taxes foncières. Mais en même temps, c'est une opportunité absolument extraordinaire de faire de la ville sur l'équivalent du dixième de son territoire.
Enfin, à condition de pouvoir construire assez vite. Alors, vous citiez le nom de Paul Graziani, il se trouve que c'est le maire un peu de transition, un peu éphémère, au début des événements que nous allons vous conter, c'est une véritable épopée, vous allez voir, l'île Seguin. Alors, Paul Graziani, il a une idée, c'est la cité bleue. Après, il y aura un projet vert chlorophylle, lesquels provoqueront l'indignation, on va l'entendre dans un instant, après Paul Graziani, de Jean Nouvel, l'architecte.
Paul Graziani, le maire de Boulogne, a une idée, la cité bleue. Une ville rêvée, autour de l'eau, de la verdure et de l'art de vivre, selon un schéma très simple. Sur l'île Séguin, des bureaux ni trop nombreux, ni trop hauts. Sur le trapèze où se balançaient autrefois les usines Renault, une cité lacustre où le logement social aurait aussi sa place.
On est sur une île, on fait comme si c'était pas sur une île, on met toujours les mêmes petits immeubles, on met toujours la même proportion de logements, de bureaux, un peu d'espace vert au milieu, sans réflexion du tout sur ce que veut dire ce site par rapport à sa géographie, par rapport à son histoire et par rapport à ces fabuleuses anomalies qu'il faut exploiter. Quand quelque chose est différent, il ne s'agit pas de le ramener à quelque chose de normal, il s'agit d'exploiter ces différences pour faire quelque chose de positif avec l'exception.
Le 6 mars 1999, le journal Le Monde publie un article de Jean Nouvel.
Ainsi, l'île Seguin serait rasée. Si cela advient, vous en êtes les responsables. Monsieur le maire de Boulogne, qui organisait. Monsieur le PDG de Renault, qui sacrifiait. Madame la ministre de la Culture, qui autorisait. C'est un vaisseau de pierre, régulièrement et largement percé sur ses flancs. La continuité de l'enceinte sur l'eau lui confère cette noblesse qui d'habitude n'appartient qu'aux châteaux ou aux ouvrages militaires. C'est aussi beau que le krach des chevaliers. C'est le krach des ouvriers.
Un mot avant d'en venir à cette question du sort du crack des ouvriers, Philippe Subra, avec un mot sur le rôle des architectes, parce que Jean Nouvel, il a une force de frappe mais médiatique, puis il attaque aussi le plan vert chlorophylle d'un de ses confrères, Fortier, qui dit, bah évidemment que Nouvel, il veut garder l'usine parce qu'il aime les structures carcérales. Il y a un débat, l'architecte.
Oui, il y a un débat. Nouvel, à l'époque, parce qu'il a quand même changé de position, on le retrouve dans le dossier quelques années plus tard avec un projet complètement différent, se pose en défenseur du patrimoine industriel et de l'histoire ouvrière. C'est un débat certainement qu'on pourrait plus avoir aujourd'hui. Ça permet de mesurer l'évolution de la société française entre-temps. C'est-à-dire, à l'époque, encore, on est quand même plus de 20 ans après mai 68, mais ce discours a encore une portée importante.
Alors, chez les anciens de Renault, et bien au-delà.
Bien au-delà. Alors, évidemment, la CGT est en première ligne. Mais il y a encore dans l'opinion française, dans une partie de l'opinion française, une forme de respect ou de nostalgie pour cette histoire ouvrière, qui a évidemment sa noblesse, et de refus de voir tout cela détruit par les bulldozers et remplacé par des immeubles de bureaux.
Peut-être à la plus vieille antiquité, mais je trouve que c'était une belle idée de faire une île avec les deux cultures. La contemporaine et l'ouvrière traditionnelle.
Oui, mais ce ne sont pas toujours les belles idées qui triomphent. La logique économique, elle est ailleurs, que ce soit la logique des promoteurs, des investisseurs, ou la logique même économique de la région et de la métropole.
Et puis la logique politique. Alors, il faut dire qu'en 1995, M. Graziani n'est plus maire, et que c'est Jean-Pierre Fourcade qui va devenir maire. Alors, voilà un homme carré, un homme qui a du poids, parce que ça a été une personnalité politique d'envergure nationale.
Oui, il a été au moins deux fois ministre et a des portefeuilles importants, l'économie, l'équipement. C'est un homme politique respecté qui a décidé de quitter sa mairie de Saint-Cloud pour se lancer à l'abordage de Boulogne et qui l'emporte sur le maire sortant.
Oui, enfin, il ne sait pas dans quel bateau il est tombé, parce que c'est plus difficile de gouverner peut-être le conseil municipal de Boulogne, où il est malmené assez souvent, que le ministère des Finances de la rue de Rivoli, parce qu'autrefois c'était rue de Rivoli.
Alors effectivement, il y a une constante dans le dossier, c'est qu'il divise politiquement à Boulogne la droite, de manière très forte, et qu'il est instrumentalisé dans les rivalités de pouvoir. Alors d'abord entre Fourcade et Graziani, et puis entre le maire actuel, Baguet, et...
Attendez, on en parlera peut-être tout
Fourcade,
à l'heure.
Par la
mais
suite.
Vous m'avez promis de ne pas parler de la mairie de Boulogne, dont certains disent que, comment dire, elle ressemble à un panier de crabes, peut-être. Mais enfin, je ne vais pas aller plus loin sur ce domaine. Un sauveur arrive, c'est Monsieur Pinault.
Grande fortune, un des grands milliardaires français, avec une appétence reconnue pour l'art contemporain, ouais. Et qui propose donc de faire construire à ses frais un musée pour abriter sa collection de 2000 objets d'art contemporain.
La Fondation Pinault pour l'art contemporain est un projet privé et non une fondation d'entreprise. Elle doit accueillir la collection personnelle de François Pinault, estimée aujourd'hui à 1500 œuvres. Après un concours international, François Pinault a choisi de confier la construction de son bâtiment à un architecte japonais mondialement reconnu, Tadao Ando. Le bâtiment proposé est ambitieux, 250 mètres de long, 48 mètres de haut, un volume équivalent à celui du Centre Pompidou.
J'ai voulu que le spectateur commence son parcours dans l'atrium par une expérience de l'espace forte et inhabituelle. À partir de cet atrium, le visiteur va monter les grands escaliers en se demandant vers quel univers ces escaliers l'emmènent. L'atrium doit créer chez le visiteur un état d'attente et de disponibilité particulier qui le prépare à la rencontre avec les œuvres d'art.
Attente, disponibilité, Monsieur Pinault ne sait pas non plus à quoi il s'engage. C'est quand même très intéressant le projet de l'île Seguin, parce que c'est un révélateur de l'arrivée en force des fondations privées dans le monde de la culture. Et quand on dit une fondation privée, oui, enfin, c'est une fondation privée avec comme conseiller Monsieur Barré, grande personnalité du ministère de la Culture, et l'ancien ministre de la Culture lui-même, Monsieur Ayagon. C'est quelque chose de nouveau, ça aussi.
François Pinault a du réseau, ça se sait. Il serait étonnant qu'il en soit autrement. Oui, c'est certainement un signe. Je ne sais pas si c'est tellement relevé d'ailleurs à l'époque d'un changement d'époque. Entre une longue histoire de politique culturelle où l'État était au volant et puis à la barre et puis le relais qui est pris.
C'est bien vos métaphores, l'île, la barre,
voilà,
le volant,
voilà,
la voiture.
On file la métaphore fluviale et une époque où des acteurs privés, je dirais à l'anglo-saxonne, prennent en partie le relais.
Oui, mais alors Venise va prendre d'assaut la galère Pinault.
Alors Pinault, au début, hésite entre Venise et Boulogne, et choisit Boulogne, et puis devant les difficultés que rencontre le projet, certainement par crainte que son propre projet s'enlise dans les difficultés de l'aménagement de l'île Seguin en général.
Parce que le projet Pinault, c'est un quart de l'île.
Oui, c'est un quart de l'île.
Et
donc
le reste.
C'est beaucoup et c'est pas toute l'île. Ouais. Et sur toute l'île, les recours contentieux des associations se multiplient.
Les chantiers prennent un rôle important aussi, les associations de riverains.
Absolument, absolument. Et les chantiers, enfin, ne démarrent même pas. Et donc la perspective de devoir inaugurer son musée, sa fondation au milieu de la boue et des grues ne plaît pas tellement à François Pinault.
Alors, il renonce en 2005.
Il renonce, oui. Ouais.
Il est à noter quand même que quand M. Vuitton, si je peux appeler l'entreprise LVMH, M. Vuitton, crée sa fondation tout récemment avec un grand concours de peuple et le renfort de tous les médias qui sont dans l'assentiment général, M. Pinault va revenir à Paris.
Oui.
Avec le même architecte.
Oui.
Qui va aménager la Bourse du Commerce et la nouvelle fondation Pinault.
C'est un architecte talentueux.
C'est bien de rendre hommage aux architectes. Monsieur Fourcade, il est furieux parce qu'il a été prévenu du désistement de Monsieur Pinault, dit-il. L'heure d'avant, je me refuse à qualifier ces procédés. Alors, le maire de Boulogne, le sénateur maire de Boulogne, Fourcade, se raccroche aux branches. Il fait raser l'usine en 2005 parce que lui, c'est un homme d'avenir. Mais enfin, quel avenir ?
Pour moi, je trouve fondamental d'avoir eu l'accord de Renault pour conserver, pour refaire son siège social à Boulogne-Billancourt de manière à bien accrocher l'entreprise nouvelle sur l'ancien secteur industriel, ça me paraît plus important que de conserver tel ou tel élément ou le tonneau sur lequel Jean-Paul Sartre est venu haranguer les ouvriers place Jules Guest. J'ai comme caractéristique de me préoccuper beaucoup plus de l'avenir que du passé. Pourquoi ? Parce que nous allons avoir d'abord un centre de création contemporaine avec une 150 à 200 artistes qui vivront sur l'île. Et nous faisons pour ça un bâtiment de résidence dans lequel nous aurons des artistes et des chercheurs, qui aura 240 places. Par conséquent, il y aura des chercheurs. Ensuite, nous aurons une SMAC, c'est-à-dire une scène de musique actuelle, avec des musiques amplifiées, avec au-dessus des logements de musiciens. Il y aura des musiciens. Et puis ensuite, nous aurons...
Donc ça fera du bruit.
Ça fera du bruit.
Et de la vie.
Et de la vie. Ensuite, nous aurons l'Université américaine de Paris, qui va mettre là 1500 à 2000 étudiants. Et tout ceci, chercheurs, artistes, étudiants, musiciens, fera une activité.
C'est Jean-Pierre Fourcade interrogé par Sylvie Andreux, France Culture, 2006. Il faut toujours faire un affichage culturel.
Oui, 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 c'est une constante de l'histoire du dossier. Ouais. Alors probablement parce que c'est aussi une façon d'habiller ce qui en France passe difficilement, c'est-à-dire des projets qui sont d'abord immobiliers.
Très bien. Jean-Pierre Fourcade ne va pas passer le cap des municipales de 2007, mais vous avez dit que vous ne vouliez pas parler de la suite des autres maires de Boulogne-Billancourt.
Ah, je suis toujours prêt à parler avec vous.
Il y en a un qui dure un an, et puis un autre qui revient pendant que l'ancien mène une guerre incessante
ça bouge
contre M. Baguet, le maire actuel. Au fond, si on tire quelques leçons, parce que nos auditeurs ont peut-être été perdus et se sont dit c'est bien difficile d'aménager la région parisienne. Il y a des logiques d'acteurs différentes.
Oui, le problème du dossier, alors c'est vrai dans beaucoup de dossiers d'aménagement, mais celui-ci plus encore, à cause de son importance et du potentiel qu'il recèle, c'est d'être au carrefour de logiques d'acteurs qui sont complètement différentes. Le problème de Renault, c'était de faire du cash pour financer sa politique de développement à l'international. Le problème de l'État, c'était de renforcer la visibilité de Paris à l'international sans trop renforcer l'ouest de l'agglomération. Le problème de la ville, c'est de récupérer ses 10% de son territoire pour faire des logements, des emplois, des entreprises des sources de financement, de fiscalité. Le problème de Pinault, c'était de disposer d'un site remarquable. Le problème des associations, c'est d'éviter les tours. C'est de préserver un taux de logements sociaux et une part d'espace vert ou d'équipement suffisante. Donc ces logiques sont contradictoires en partie et elles portent sur le même territoire. Et donc c'est ça qui entraîne du conflit et en fait la difficulté du dossier à sortir.
Si je puis me permettre, vous avez oublié un acteur, c'est le conseil général, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, c'est quand même lui qui va finir par faire sortir quelque chose de terre.
Absolument, avec lui aussi une stratégie... de long terme pour son territoire, c'est-à-dire faire des Hauts-de-Seine non pas une banlieue de Paris, un terme qu'il rejette avec force, mais en faire un vrai territoire métropolitain, ce qui explique d'ailleurs aussi la place de la culture.
Oui, parce que quand on entend Monsieur Devedjian, allez, j'introduis le nom de Monsieur Devedjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui est le porteur de la scène musicale où se tient aujourd'hui le sommet climat. La vallée de la Seine, c'est une vallée de la culture, mais c'est pas la vallée de la Seine, c'est la vallée des Hauts-de-Seine.
Oui.
Il ne voit que des points de alto sequanais.
Oui, un terme un peu barbare et peu utilisé, mais il y a effectivement une vision qui est départementale, qui n'est pas métropolitaine, par exemple. D'où l'attitude actuelle de Patrick Devedjian, qui cherche à éviter d'être fusionné dans la métropole en se rapprochant des Yvelines, autres banlieues aisées, avec le même profil sociologique et politique.
Alors s'il faut tirer une autre leçon, c'est qu'il est temps de faire une politique métropolitaine. Et je fais référence à votre livre paru il y a peu, cher Armand Collin, « Le Grand Paris ». Et voilà Nicolas Sarkozy qui arrive.
Et oui, et qui fait beaucoup de choses. Et qui crée, notamment, qui fait sortir de terre et fait imaginer ce projet de grand métro qui est... une avancée remarquable sur laquelle d'ailleurs il y a un consensus absolument général des
Et alors le grand métro en 8 là, qui circule jour et nuit, il frôle l'île Seguin ?
Il frôle l'île Seguin.
Mais on aurait pu organiser des choses à partir de...
Oui, on aurait pu imaginer qu'il ne se contente pas de frôler.
L'idée que ce grand 8 arrive. Ouais.
Et qu'il la desserve réellement. Là, il y a un petit loupé qui aura des conséquences assez longue.
Mais dans une grande interview à l'Opinion, Nicolas Sarkozy dit « Cette histoire de Grand Paris, il faut que ça passe par l'État, quoi ».
Ben c'est toujours ce qu'il a pensé. On dit qu'il avait laissé de côté la question de la gouvernance. C'est pas du tout vrai. Il l'a confié à un secrétariat d'État et à un homme fort, Christian Blanc. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? On n'a pas encore le fond de la pensée jupitérienne sur la question, puisque Emmanuel Macron a retardé l'annonce de sa position sur le sujet. Mais il y a clairement une volonté aussi que l'État joue un rôle très important.
Vous pouvez peut-être nous révéler quelques-uns des projets des investisseurs qui vont s'installer sur le reste de l'île Seguin. Moi, j'irais bien Monsieur Bolloré, par exemple.
Eh bien, il sera là.
Ah.
Ne vous inquiétez pas. Avec 150 000 mètres carrés, le campus Vivendi, une arrivée qui nécessite une nouvelle modification du PLU, donc un risque aussi de contentieux, mais qu'il a obtenu de la mairie en échange de l'ouverture d'équipements sportifs à la population.
Ah oui, un stade de foot, une piscine, etc. Ça va être un festival de pôles, je vous dis. Et puis on parle d'un monsieur Laurent Dumas.
Oui, également.
Qui a une collection aussi d'art contemporain.
Voilà, c'est
et alors, il y a
un petit Pinault.
Une bonne nouvelle à annoncer, c'est que dans la partie du pôle de Monsieur Dumas, on va voir ressurgir la collection d'art contemporain Renault. Parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais il y a une collection d'art contemporain Renault. Merci à vous, Philippe Subra, Voli, dictionnaire de la banlieue, Larousse, Le Grand Paris aux éditions Armand Collin. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin avec la réalisation Audrey Ripouille. À la technique, Henri Bérec.